Plage 3, du domaine royal au musée, histoire et architecture. Découvrez maintenant l'histoire et l'architecture du château, du parc et des jardins du roi de Nérac. Pour comprendre l'architecture du château avant ses démolitions, deux maquettes sont exposées ici. Une maquette des collections sous vitrine et une maquette pédagogique. Les personnes déficientes visuelles peuvent toucher la maquette pédagogique placée devant la fenêtre au fond de la salle avec des gants prêtés à l'accueil. Nous sommes au XVIe siècle. Il y a déjà plus de 5 siècles qu'une demeure seigneuriale existe à Nérac. Au XIVe siècle, un premier château se dressait au sein du bourg médiéval, entouré d'enceintes et adossé à la rivière Baïse. Mais l'apogée du château reste à venir. Alain d'Albret, l'arrière-arrière-grand-père d'Henri IV, modernise et agrandit considérablement le bâtiment. Au XVIe siècle, le château est construit sur un plan quadrangulaire autour d'une cour intérieure. Le château est construit en pierre de taille en calcaire, donc très blanche. La toiture est couverte de tuiles plates de couleur rouge foncé. L'ensemble était entouré d'un mur d'enceinte, puis de fossés à sec, excepté à l'est, où la rivière servait de protection naturelle. Chaque aile mesurait environ 54 mètres de long et 10 mètres de large. Les ailes avaient une hauteur d'environ 17 mètres. Les plafonds de chaque pièce sont à peu près à 4,50 mètres de haut. Débutons la découverte détaillée de l'architecture en se plaçant devant le petit pont-levis en bois face à l'aile ouest. Au centre, on aperçoit l'entrée principale du château, ouverture percée dans le mur. Elle est encadrée par deux tourelles circulaires. Cette aile se compose d'une armurerie à l'étage. Côté cour, cette première aile est desservie par une coursive, sorte de balcon extérieur en bois. Aux extrémités de ce corps de bâtiment s'élèvent deux larges tours circulaires. Ces tours d'angle au toit conique sont composées au rez-de-chaussée de casemates, petites salles à usage défensif munies de canonnières à la française, ouverture pour le passage des boulets de canon. Les salles aux étages servent de rangement vestimentaire ou garde-robe. Poursuivons à gauche, par l'aile nord, la seule conservée aujourd'hui. C'est là que vous vous situez. Au rez-de-chaussée se trouvait sans doute une petite cuisine annexe et, selon une autre hypothèse, les appartements de bain. Le premier étage comprend les appartements de Jeanne d'Albret et une galerie extérieure en encorbellement, système de surplomb qui soutient la galerie. Cette galerie, qui se prolonge sur toute la longueur de l'aile, est agrémentée d'une colonnade, suite de 12 colonnes polygonales à plusieurs côtés, légèrement torsadées, que vous pourrez toucher en ressortant. Elles sont ornées de 8 vrilles. À leur sommet, les chapiteaux sont sculptés de motifs végétaux ou animaliers. Venons-en maintenant à l'aile est, en fond de cour. Elle constituait le corps de logis principal du château. Elle abrite la grande salle et la chambre de la reine. L'étage de comble est éclairé par 10 lucarnes monumentales en pierre. Ses fenêtres sont surmontées de parties sculptées en forme de triangle, petits frontons décorés des armoiries d'Alain d'Albret. Côté cour, dans les deux tours adossées à la façade, sont construits deux escaliers en vis ou en colimaçon. L'un se situe au centre de l'aile et l'autre à l'angle avec l'aile de la galerie. C'est par cet escalier que vous accéderez au rez-de-chaussée. Cette façade, du côté de la baïse, présente également des constructions adossées comme une petite tour rectangulaire et une avancée matérialisant l'emplacement d'un escalier couvert. Ces derniers permettaient d'accéder à une terrasse par un petit pont qui menait au parc de la Garenne. Terminons par l'aile sud, moins décorée, à droite. À l'extérieur, comme à l'intérieur, on remarque toujours deux niveaux de fenêtres. Elle abritait, au premier étage, les appartements d'Henri de Navarre, avec une salle de bal ou de grande réception de 35 mètres de long. Au rez-de-chaussée se trouve une cuisine avec des fours à pain. Dans l'angle de la cour intérieure, du côté de la cuisine, se situe un puits. Cet ensemble royal héritage des Albret à Henri de Navarre, futur Henri IV, est confié, après son accession au trône, à sa sœur Catherine de Bourbon. Après son assassinat par Ravaillac en 1610, la période faste du château s'achève et son statut de résidence royale est révolu. Au XVIIe siècle, le château est utilisé comme garnison et se dégrade. Louis XIII ordonne le comblement des fossés et la démolition des murailles de la ville. Suite à la Révolution, le château est déclaré bien national. Sa destruction débute en 1793, mais sera interrompue en 1794 par un décret mettant en doute la légalité de la démolition. L'aile nord, seule aile restante, est vendue par l'eau. Le jardin et le parc subissent le même sort. Ainsi, au XIXe siècle, les vestiges du château sont divisés en 5 appartements, habités par 5 familles. Dans les années 1860, la municipalité décide de restaurer l'aile nord. En 1862, le château est classé monument historique. Les lots sont rachetés et les travaux de restauration débutent en 1925. Les collections du musée municipal, premier musée du Lot-et-Garonne, y sont transférées et l'ensemble est inauguré en 1934. Depuis le XIXe siècle, le parc est ouvert au public. Aujourd'hui, les jardins d'agrément ne permettent pas de retrouver l'ensemble. Seul un lot présente un jardin d'évocation Renaissance. Vous allez maintenant pouvoir pénétrer dans l'univers des seigneurs du château en découvrant leur histoire sur la plage suivante.